révolution civilisatrice, l'œuvre sociale et sanitaire de la France ont eu pour conséquence un prodigieux développement de la population.
La loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés avait provoqué la polémique. Voulue par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, à l'origine, cette loi devait harmoniser les régimes d'aide, de pension attribués à la fois aux rapatriés d'Algérie ou harkis et anciens membres des corps supplétifs de l'armée française en Algérie, mais elle devint assez vite la loi du rôle positif de la colonisation. Outre l'article 13 de cette loi qui permet aux anciens de l'OAS amnistiés de toucher une pension, c'est plutôt l'article 4 alinéa 2 qui suscitera le débat. Cet article énonce une idée simple. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La gauche parlementaire mettra un temps avant de réagir, la réaction viendra plutôt du monde associatif. Beaucoup de discussions s'engageront et en novembre 2005, une tentative d'abrogation de la loi engagée par la gauche et quelques députés de droite sera un échec. Il faudra attendre une décision du Conseil constitutionnel saisi par le président Chirac pour voir cet article 4 disparaître de la loi finale. Mais le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le fond, seulement sur la forme. Avec Romain Bertrand, politiste et auteur de « Mémoires d'Empire, la controverse autour du fait colonial », nous allons parler du contexte dans lequel cette proposition de loi est apparue, des conséquences de l'article 4 largement discuté et de l'article 13 qui demeure. Nous verrons aussi comment l'idée de la repentance a joué pendant la crise des banlieues de novembre 2005, ces révoltes étant selon certains un aveu de l'échec post-colonial.
C'était la loi portant reconnaissance nationale en faveur des rapatriés. Reconnaissance nationale au sens de reconnaissance financière, puisque c'était une loi au départ destinée à harmoniser les régimes d'aide, de pension spécifiques attribués à la fois aux rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire aux Français rapatriés d'Algérie en 1962, et aux harkis, les anciens membres des corps supplétifs de l'armée française en Algérie. Dire qu'elle est voulue directement par le président de la République, ce serait peut-être aller un peu loin. Elle est en tout cas voulue très directement par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui, quelques semaines après son entrée en fonction, décide de créer une mission interministérielle aux rapatriés, laquelle proposera la création d'un Haut Conseil des rapatriés. Et c'est à travers ce nouvel instrument, le Haut Conseil des rapatriés, que le gouvernement entend faire élaborer un projet de loi. Donc au départ, c'est une initiative gouvernementale et pas une initiative parlementaire. Et ce projet de loi, au départ, donc, est un projet de reconnaissance nationale au sens proprement financier, c'est-à-dire que c'est un projet de loi qui vise à harmoniser, compléter tout un ensemble de dispositifs d'aide et de pensions spécifiques pour les rapatriés et les harkis. Mais très rapidement, le Premier ministre va demander un rapport à un député donc de la majorité, qui est Michel Diefenbacher, et l'on voit dans ce rapport, très rapidement, donc se faire jour une revendication qui va bien au-delà des simples dispositions techniques budgétaires, financières, et qui est une revendication de revalorisation dans le récit national de la place jouée par les rapatriés et plus généralement par les autorités colonisatrices, en particulier en Afrique du Nord, c'est-à-dire très précisément en Algérie.
Ce fameux article 4 alinéa 2, forcément ça va faire une bombe, parce que là il est question donc des manuels scolaires, et là c'est le politique qui s'immisce grosso modo dans l'histoire, c'est-à-dire que ce serait une loi qui ferait l'histoire, et là les historiens, l'opposition, les associations ne sont pas d'accord.
C'est un article qui fait scandale, littéralement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un article qui sera abrogé, qui provoquera un nouveau débat parlementaire en novembre 2005. L'ensemble des forces de gauche, PS, PC et une partie de l'UDF déposeront une proposition de loi qui vise explicitement à l'abrogation de cet article 4. Mais ce débat parlementaire n'aboutira pas à l'abrogation de l'article 4. La majorité campera sur ses positions et au final, les votes ne permettront pas à la gauche et à l'UDF d'obtenir l'abrogation de cet article. C'est en revanche le Conseil constitutionnel constitutionnel qui va finir par abroger cet article, qui sera saisi à l'initiative du président de la République de cette question. Et là, le Conseil constitutionnel, lui, c'est très important de le rappeler, ne se prononcera pas sur le fond de cet article. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel ne dira pas si les parlementaires ont eu tort ou raison de s'immiscer dans le domaine de l'enseignement scolaire de l'histoire ou de proposer leur propre interprétation du passé national. Le Conseil constitutionnel s'en tient à son mandat technique qui est de faire la part entre, d'un côté, le domaine de la loi qui appartient en propre à l'Assemblée nationale, aux assemblées parlementaires, et de l'autre côté, le domaine du règlement qui appartient au gouvernement et aux administrations. Et le Conseil constitutionnel, dans son arrêt, qui donc aboutit à l'abrogation, à l'annulation de l'article 4, constate qu'il existe déjà, au sein du ministère de l'Éducation, une commission des programmes scolaires, et que c'est à cette institution particulière qu'appartient le pouvoir de proposer un certain nombre de thèmes particuliers pour les manuels d'enseignement de l'histoire. En revanche, c'est vrai que c'est la première fois que les députés avancent aussi ouvertement sur le terrain de la fabrique de l'histoire. C'est également la première fois où ils articulent leurs revendications, c'est-à-dire d'un enseignement beaucoup plus conséquent sur l'aspect positif de la présence française outre-mer, à une critique en règle de l'histoire telle qu'elle se fait. Et on a dans les débats en particulier de novembre 2005 tout un ensemble de critiques très très dures à l'encontre des enseignants du secondaire, des enseignants d'université, des chercheurs qui auraient d'une certaine manière accepté une vulgate anticolonialiste qui ne dirait pas toute la vérité sur la période coloniale. Donc ce qui provoque aussi la réaction des historiens de métier, des historiens professionnels et des associations d'enseignants d'histoire-géographie, c'est à la fois le contenu prescriptif de l'article 4, mais également les attaques extrêmement virulentes qu'un certain nombre de députés de l'UMP lancent contre l'histoire telle qu'elle se fait, avec cette idée que l'histoire a été mal faite, que l'histoire est tombée aux mains, pour aller vite, d'un petit groupe d'historiens gauchistes qui ont imposé leur propre vision des choses.
Les suites de la polémique sur le rôle positif de la colonisation française, avec peut-être une sortie de crise en vue. Dominique de Villepin a exprimé ses réserves ce matin.
Nous avons besoin d'être enrichis par le regard et les travaux des historiens. Mais première règle, ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas au Parlement que d'écrire l'histoire ou de dire la mémoire.
Il faut également rappeler que dans le groupe de parlementaires qui s'est réuni en juin 2004 pour entériner ce qui est le projet de loi du 23 février en son état, dans ce groupe, on comptait un certain nombre de députés de gauche, des gens comme Alain Héry, Kléber Mesquida et d'autres députés socialistes et communistes, et que ceux-ci ne se sont pas élevés à l'époque contre l'article 4, ce qui d'ailleurs a fait dire par la suite au secrétaire général du Parti socialiste, François Hollande, qu'il s'était agi d'une terrible inconséquence. Mais donc la mobilisation de la gauche parlementaire en novembre contre l'article 4 s'inscrit aussi dans le sillage donc du silence terrible qu'elle a observé en février et en amont dans le processus. Pratiquement aucune voix anticolonialiste ne s'est élevée depuis les rangs de la gauche parlementaire tout au long du processus qui aboutira à la loi du 23 février, à son article 4 sur le rôle positif de la colonisation française d'une part, à l'encontre de son article 13 d'autre part, qui est un article qui vise explicitement à réhabiliter pleinement, par le biais de compensations financières, des gens qui, pour dire les choses très vite et très clairement, sont d'anciens condamnés amnistiés de l'organisation armée secrète, organisation terroriste, anti-républicaine, anti-gaulliste. Donc la gauche intervient d'autant plus virulemment en novembre pour réclamer l'abrogation de cet article 4 qu'elle est embarrassée de son propre silence et de l'absence de réflexes anticolonialistes dans ses rangs auparavant. Un seul député, un sénateur, Guy Fischer, un sénateur communiste, un seul parlementaire s'est élevé de manière très explicite à l'époque en dénonçant ce qu'il considérait comme un retour à une rhétorique réactionnaire colonialiste. Un seul.
La France regarde passionnément vers son empire. La quinzaine impériale s'est ouverte avec solennité. À Vichy, le maréchal Pétain, chef de l'État, et M. Pierre Laval, chef du gouvernement, inaugurent cette série de manifestations en se recueillant devant le monument aux morts. Unis ici, comme ils le furent à chaque chapitre de notre histoire coloniale, un marsouin et un matelot déposent une couronne à la mémoire de ceux qui créèrent l'Empire. L'après-midi, au stade, le gouverneur général Brévier, secrétaire d'État aux colonies, accueille les athlètes d'une institution africaine venue prendre part aux manifestations de la quinzaine de France.
Alors, Romain Bertrand, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'Empire, la controverse autour du fait colonial ». Pendant qu'il y avait cette abrogation de la loi du 23 février 2005, il y avait aussi des émeutes ici en France. Et quel lien on peut faire entre ces deux faits ?
Alors la question de savoir quel lien on peut faire entre les deux est une question en soi. La question fondamentale étant de savoir s'il faut faire le lien ou pas entre les deux. Le problème, c'est qu'un certain nombre de gens l'ont fait, en particulier les parlementaires qui étaient effectivement en train de siéger pour abroger, en l'espèce pour ne pas abroger donc l'article 4 de la loi du 23 février, parlementaires, mais aussi un certain nombre d'intellectuels médiatiques, de commentateurs de presse, tout un ensemble de gens donc ont fait le lien entre les motivations des jeunes émeutiers des quartiers populaires en octobre-novembre 2005 et la question du rapport de l'État républicain à son passé colonial. Alors du côté des parlementaires, la question était de savoir ce que l'État devait dire concernant son passé colonial pour regagner la loyauté, et donc d'emblée supposée perdue, des jeunes dits issus de l'immigration postcoloniale à l'égard de la République. On a des positions qui sont radicalement opposées idéologiquement, mais qui en même temps donc partagent des prémices communes, à savoir qu'il y a bien un problème qui a trait au passé colonial dans ces mobilisations, ces insurrections de jeunes des quartiers populaires. Pour la gauche, il s'agit de dire toute la vérité sur le passé colonial, d'aller vers donc un discours public d'excuses à l'encontre des anciennes nations colonisées et à l'encontre des descendants de colonisés qui vivent aujourd'hui sur le sol français et qui sont citoyens français. Inversement, pour la droite parlementaire, la droite de gouvernement à l'époque, il s'agit au contraire de ne pas, dans les termes des députés, se complaire dans le discours de la repentance pour ne pas affaiblir plus encore l'État vis-à-vis de ces jeunes des banlieues. Et donc, d'une certaine manière, c'est très paradoxal, mais les ennemis idéologiques partagent une position commune qui est de voir du colonial et du colonial tiré républicain derrière ces insurrections et ces insoumissions populaires d'octobre-novembre 2005. Gérard Mauger avait écrit un petit livre, dans la même collection d'ailleurs que Mémoire d'Empire, dans laquelle il disait que ces émeutes d'octobre-novembre 2005 n'ont pas seulement été des émeutes physiques, qu'elles ont aussi été des émeutes de papier, c'est-à-dire qu'elles ont donné lieu à un conflit d'interprétation extrêmement virulent. Fallait-il considérer ces émeutes comme des événements politiques, donc qui étaient porteurs d'une parole politique précise ? Fallait-il au contraire les considérer comme des événements infrapolitiques, qui relevaient tout simplement de la criminalité de bande ? Et surtout, quel sens assigner à cette parole violente de jeunes des quartiers populaires. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a vu se nouer très rapidement, c'est ce qu'on pourrait appeler une lecture post-coloniale des émeutes de banlieue. Et on a vu un certain nombre de journalistes dire, par exemple, ces jeunes s'affrontent aux forces de l'ordre parce qu'ils veulent, je cite un journaliste, je crois, de Témoignages chrétiens, parce qu'ils veulent venger l'affront de la colonisation et de l'esclavage subi par leurs ancêtres. Ce qui, à mon avis, est mettre beaucoup de paroles dans la bouche de gens dont, à l'époque, personne ne réussissait à recueillir les propos de vive voix. Et donc, on a un réflexe, d'ailleurs, assez classique, qui consiste à faire parler les dominés quand on n'est pas capable de recueillir leur voix ou de les entendre dans leurs propres termes. Et c'était probablement aller très vite en besogne, étant entendu qu'on pouvait trouver des causes beaucoup plus concrètes et conjoncturelles à ces affrontements avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire la dénonciation des discriminations policières au quotidien dans les quartiers populaires, la dénonciation d'un accès inégal aux services publics. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait même lire ces émeutes. C'est ce que proposait un sociologue de la jeunesse des quartiers populaires et des forces de l'ordre, Fabien Jobard, non pas comme un refus de la République, de l'autorité républicaine, mais comme un rappel de la République à sa promesse d'universalité, et donc comme un mouvement à la fois éminemment politique et éminemment républicain. Mais donc conflit d'interprétation et effectivement émergence de cette lecture coloniale ou post-coloniale d'émeutes qu'il y a quelques années, disons une dizaine d'années en arrière, on aurait considéré à travers le prisme tout simplement d'une insurrection populaire.
Alors là, je ne sais pas si je veux faire un anachronisme, mais Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, pouvait répondre à ces questions, hein, puisqu'il disait « maintenant il va falloir s'excuser d'être français », et il disait clairement que les émeutiers étaient des voyous.
On a même eu au sein de la droite de gouvernement une espèce de surenchère sur ce thème de la repentance, c'est-à-dire précisément du refus de la repentance qui affaiblit l'État, qui affaiblit la République. Il faut se rappeler que Nicolas Sarkozy, en disant cela, d'abord couvrait, pour ainsi dire, ses parlementaires qui venaient de confirmer le maintien de l'article 4, et d'autre part, répondait à Dominique de Villepin, qui lui-même avait déclaré à la tribune de l'Assemblée « J'assume l'histoire de France, toute l'histoire de France, ce qui était également manière de dire à l'endroit de ces troupes parlementaires, j'accepte également dans l'histoire de France la part sanglante de la colonisation comme faisant partie intégrante de notre héritage. Ce qui était une façon de dire il n'y a pas besoin de s'en excuser.
L'action civilisatrice, l'œuvre sociale et sanitaire de la France ont eu pour conséquence un prodigieux développement de la population.
On disait que finalement, ces jeunes, bon, il y avait peut-être l'idée que la République devait se réapproprier ces jeunes pour lutter contre les discriminations. Et ça, c'était effectivement eh bien, une mémoire postcoloniale. En revanche, il n'y a eu aucune étude sociologique faite auprès de ces jeunes émeutiers pour savoir si vraiment, eux, ils ont conscience de ça.
Le problème est que l'émeute, pour ainsi dire, a pris de court les gens qui font véritablement des enquêtes de terrain et des enquêtes de terrain sociologiques de longue haleine, que ces quartiers difficiles l'ont été encore plus en termes d'accès au moment même des événements, hein, à part quelques journalistes qui parfois ont fait un travail remarquable. Je pense notamment à une équipe de journalistes suisses qui a couvert en temps réel et plusieurs journées d'affilée les événements sur le terrain. Pratiquement aucun sociologue n'a pu se rendre à ce moment-là auprès des jeunes émeutiers pour recueillir leurs propos. Alors, en revanche, on voit depuis ces émeutes tout un ensemble d'équipes de recherche réinvestir un certain nombre des quartiers qui ont été impliqués dans ces événements et peu à peu, effectivement, reconstituer à la fois le fil des événements et faire parler les gens. Moi, ce qui me paraît important, c'est que dans toutes ces histoires, je ne suis pas sociologue des quartiers populaires français, mais ce qui me paraît important, en tout cas, c'est de faire parler les gens et de ne pas parler à leur place. Donc de savoir ce que les gens ont dans la tête, ou du moins ce qu'ils ont envie de dire, et de ne pas leur mettre dans la tête ce qu'on aimerait leur faire dire. Donc là, me semble-t-il, le vrai problème en octobre-novembre 2005 a été celui-là. On n'avait pas de parole des jeunes émeutiers, et donc on a interprété, et on a surinterprété probablement un certain nombre de leurs actions, avec des visées idéologiques chez certains commentateurs évidentes, qui étaient de dépolitiser ces événements, et donc de les rabattre sur une espèce de sensibilité mémorielle très élusive pour ne pas parler de revendications beaucoup plus concrètes qui auraient appelé des projets de réforme, en particulier des brigades anticriminalité, la réintroduction de la police de proximité dans ces quartiers, la remise en branle et en marche de politiques sociales de grande envergure, etc. Donc il faut bien voir qu'à chaque fois, lorsqu'on choisit une ligne ou une grille d'analyse, ça permet de parler de dimensions qui, effectivement, peut-être ont été laissées dans l'ombre pendant longtemps. La transmission au sein des familles issues en particulier du Maghreb de cette mémoire coloniale, mais ça permet également aussi de ne plus parler de certaines choses. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut bien voir que chaque fois qu'on choisit un langage d'analyse, il faut se rendre compte de ce qu'il permet de dire et de ce qu'il permet aussi, parfois à son corps défendant, d'occulter.
Donc ça pourrait être une espèce de vernis, effectivement, sur tous les problèmes que peuvent rencontrer concrètement ces jeunes dans les banlieues.
Ça peut le devenir, parce qu'une fois qu'on a dit il y a un problème de transmission dans les familles, des mémoires douloureuses de la colonisation, il y a un problème de reconnaissance par l'État français de son rôle en matière d'exaction coloniale, à quoi cela mène-t-il en termes très concrets ? À part à un jour, on l'espère d'ailleurs, hein, un discours qui serait l'équivalent de celui du Veldiv, qui reconnaîtrait officiellement par la bouche du président ou des plus hautes autorités de nos assemblées le rôle tout à fait tragique et criminel souvent de la France dans les campagnes de conquête coloniale. Mais tout ça ne fera pas grand-chose, à mon humble avis, pour régler sur le terrain des problèmes qui, eux, sont très concrets et très contemporains, qui sont des discriminations qui ne sont pas toutes liées exclusivement à des populations issues de l'Empire colonial français, qui ne sont pas toutes liées exclusivement à des racismes dont l'histoire est exclusivement coloniale. Le racisme, c'est aussi quelque chose qui se fabrique de manière contemporaine, qui n'a pas besoin, d'une certaine manière, de sa matrice ou de sa formulation coloniale pour se reproduire. Et donc, ce discours qui appelle à la repentance de l'État sur son passé colonial, me semble-t-il, ne dit rien en matière de politique sociale concrète, de lutte contre les exclusions et les discriminations. Et c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas s'aveugler sur la portée de cet argument colonial ou post-colonial en matière d'action politique sur le terrain et d'action politique, on pourrait dire, d'urgence dans certaines situations.
Eh bien, merci beaucoup, Romain Bertrand. Donc, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Mémoire d'Empire, la controverse autour du fait colonial » aux éditions du Croquant, la collection « Savoir agir ».
60% de Français, contre 64% en décembre dernier, soit un léger recul, approuvent que la loi demande au programme scolaire de reconnaître le rôle positif de la colonisation française. 33% s'y opposent. Parmi ceux qui approuvent cette idée, contenue dans la loi controversée du 23 février 2005, 70% sont des sympathisants de droite, 53% de gauche. À noter enfin que plus les sondés sont diplômés, moins ils approuvent cette notion. Ils ne sont que 35%. À l'inverse, les non-diplômés y sont favorables à 64%.
On l'a entendu, l'article 4 a été supprimé, quand bien même les Français étaient plutôt d'accord pour reconnaître dans les livres scolaires le rôle positif de la colonisation. Pour un historien, cela n'a pas de sens de proposer une lecture positive ou négative d'un fait colonial. Dans son livre, Romain Bertrand s'est interrogé, entre autres, sur les motivations de ces jeunes députés de droite qui ont soutenu l'article 4 et s'est aussi demandé pourquoi la gauche, traditionnellement anticolonialiste, a mis tout ce temps à sortir de son silence.
What is going to happen now? It is, of course, necessary for the minds and souls of us all.